On est de retour en ondes à la rage du peuple pour une entrevue avec Mathieu Houle-Courcel. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Oui, Mathieu.
Oui.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, un instant. Un petit problème technique. On va essayer de voir si ça fonctionne. Mathieu, ça va?
Oui, ça va.
Oui, OK, ça va mieux. Donc, on va commencer peut-être tout simplement par une présentation. T'as écrit un livre, en fait, qui s'appelle « Sur les traces de l'anarchisme au Québec ». Puis, je crois que t'es également militant anarchiste depuis un moment déjà.
Oui.
Puis, est-ce que tu veux nous présenter un peu l'ouvrage que t'as réalisé puis qui a été publié, je pense, c'est dans Instinct de liberté chez Lux?
Ben, en fait, le projet du livre est né il y a déjà une dizaine d'années. Au départ, c'était évidemment pas un projet de livre, c'était plutôt un désir bien personnel de mieux comprendre puis de connaître aussi, de savoir s'il y avait eu des anarchistes organisés au Québec avant les années 60 et 70. Parce que, bon, on sait qu'il y a eu un mouvement socialiste et un mouvement syndical assez important tout au long de cette période-là, donc dès la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on savait moins, en revanche, c'est si le courant anarchiste ou libertaire avait eu une empreinte ici. Alors, les premières traces que j'ai rencontrées, finalement, c'est à travers des ouvrages assez généraux où parfois on faisait mention, par exemple, que la célèbre anarchiste américaine Emma Goldman avait prononcé une conférence à Montréal au début du 20e siècle, ou encore qu'il y a eu des anarchistes juifs organisés à la même période à Montréal à travers, entre autres, des traductions qui sont parues au milieu des années 90 d'ouvrages qui avaient été rédigés en yiddish à l'origine par des historiens québécois. Mais il n'y avait rien qui, finalement, me permettait de me faire une idée complète. Et à force de documenter ça, de conserver ces traces-là, d'essayer de refaire une trame, ben, j'en suis venu à la conclusion qu'effectivement, il y avait pas mal de choses et qu'à chaque fois qu'on gratte, on trouve effectivement une information qui est intéressante et qui méritait d'être publiée. D'abord sous la forme d'articles dans la revue Rupture, qui est une revue publiée à l'époque par la Fédération des communistes libertaires du Nord-Est, à laquelle je collaborais. Puis par la suite, une fois que plusieurs articles ont été écrits, j'ai bonifié ça. Et ça a donné « Sur les traces de l'anarchisme au Québec », qui est paru chez Lux au mois de mars 2008.
Puis dans ce livre-là, tu fais un... jusqu'à quelle date tu recules pour pouvoir, si on veut, aborder les mouvements sociaux et l'anarchisme au Québec?
Bien, la date arbitraire un peu, c'est 1860. En fait, c'est qu'à cette période-là, il existait des courants, disons, libéraux au Québec, du libéralisme politique, donc... Et parmi ces courants-là, il y avait quelques individus qui se démarquaient particulièrement par leur attachement à des valeurs qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de libertaires. Ce n'étaient pas nécessairement des anarchistes à proprement parler. Ils n'étaient pas tous et toutes foncièrement opposés, par exemple, au capitalisme ou à l'État. Mais néanmoins, ils s'attaquaient à travers leurs critiques à des institutions comme l'Église, par exemple, et au cléricalisme en particulier, qui pesait de manière très lourde dans les affaires publiques. Des personnages, par exemple, comme Arthur Buis, dont je parle dans le livre au tout début, ben, constituent pour moi, en tout cas, des précurseurs d'une certaine idée libertaire au Québec. Mais c'est vraiment peut-être après la Commune de Paris, donc on parle de 1870, 1871 et les années suivantes, que là, des réfugiés français vont immigrer au Québec et à Montréal en particulier.
Donc, je crois que c'est également...
L'agitation ouvrière dans des villes comme Québec et Montréal.
OK. Je crois que c'est également de la part d'immigrants et migrantes que les courants sociaux ont peut-être un choc de départ, si on veut, pour lancer le tout.
Ben, c'est vrai que les immigrants et les immigrantes ont eu un rôle très important à jouer dans l'apparition de mouvements contestataires ici au Québec. Au milieu du 19e siècle déjà, parmi les premières grèves... très durs, là, qui ont été menés, entre autres dans la région montréalaise, eh bien, on retrouve des immigrants d'origine irlandaise. Plus tard, ce sera des immigrants français, puis des immigrants juifs, finalement, pour le courant anarchiste, en tout cas, ce qui serait important au milieu du 20e siècle, ce sera l'arrivée de militants et militantes d'origine espagnole. Donc oui, effectivement, tout au long du 20e siècle, et même au 19e siècle, on voit que les immigrants et les immigrantes ont joué un rôle capital dans l'organisation des mouvements, mais évidemment, on retrouvait au sein de ces groupes-là aussi bien des Canadiens anglais que des Canadiens français.
Puis, j'imagine, pour la plupart, ouvriers, ouvrières?
Oui, effectivement. C'est vrai que le mouvement, en tout cas anarchiste au Québec, a eu une forte empreinte au niveau du mouvement ouvrier. Plusieurs syndicats, entre autres dans le domaine du textile à Montréal au début du 20e siècle, ont été fondés et étaient animés par des militants et des militantes anarchistes. Mais il y avait aussi quelques intellectuels qui se sont greffés à tout ça au passage. Certains sous des noms de plume, on n'a pas nécessairement leur véritable nom. Ils écrivaient sous des pseudonymes. Je pense entre autres à celui qui signait Jean Valjean, de toute évidence. C'était quelqu'un aussi qui avait... quelqu'un qui avait, en tout cas, fait des études supérieures. En tout cas, il y avait là une facilité importante là, pour à l'écrit, ce qui n'était pas le cas de tous et de toutes, là, nécessairement. Mm-hmm. Donc, je pense qu'au Québec, c'était davantage des hommes et des femmes d'action plutôt que des penseurs.
Puis j'imagine qu'on parle, dans la plupart des cas, des milieux qui sont urbains plutôt que ruraux. Pour ce qui est de l'agitation, puis est-ce qu'il y a des secteurs de l'industrie qui étaient plus touchés que d'autres, si on veut, par dans le fond, pour l'émergence des mouvements sociaux au Québec?
Bien, évidemment, à chaque fois qu'au 19e siècle, par exemple, un des mouvements dans lesquels, justement, les libertaires ont pu avoir une certaine influence, du moins au niveau de leur philosophie puis de leur mode de pensée, c'était les Chevaliers du Travail. Puis les Chevaliers du Travail, en fait, c'est probablement l'une des premières organisations ouvrière à avoir le jour au Québec de manière structurée aux quatre coins de la province. Là, on parle. À chaque fois qu'il y avait des villes où il y avait le développement d'industrie, eh bien, on voyait apparaître les Chevaliers du Travail également. Donc, oui, c'est lié à la mécanisation, c'est lié à l'apparition aussi d'une classe ouvrière, mais cette classe ouvrière-là était plus présente dans les grands centres urbains, en particulier à Montréal. Mais dès qu'il y a eu apparition comme ça, dès que l'industrie, par exemple, textile s'est développée, eh bien, on a vu apparaître aussi des syndicats dans son sillon. Les chantiers, tout ce qui était construction de navires aussi, les syndicats étaient très présents et les militants syndicalistes révolutionnaires aussi se sont impliqués sur les chantiers à créer des organisations spécifiques. Donc, à la fois dans l'industrie lourde comme dans l'industrie légère, il y a eu présence de militants syndicalistes révolutionnaires et parfois d'anarchistes.
Et puis, si on souhaite donner un point de départ à, admettons, un groupe organisé se revendiquant de l'anarchisme ou à une publication libertaire, on atteint quelle date?
Bien, par des groupes organisés, moi, je dirais que on peut remonter environ à 1905 et 1906. C'est probablement l'âge d'or de l'anarchisme au Québec, à Montréal en tout cas. Il y a, d'une part, chez les francophones, un groupe qui va envoyer une lettre au journal La Presse, qui va être publiée intégralement, qui signe « Groupe anarchiste de Montréal ». Donc, c'est un premier signe, là, qu'il y avait un regroupement d'anarchistes francophones. Cette lettre-là, en fait, dénonçait la condamnation à mort d'un immigrant d'origine italienne. Et les signataires, en fait, les gens signent sous un nom de groupe, vont également développer un peu sur leur projet politique, qui est un projet communiste libertaire. Il y a aussi, à la même époque, mais plutôt chez les immigrants juifs et chez quelques immigrants d'origine irlandaise, l'apparition d'un groupe qui s'appelle le groupe Mutual Aid, là, aide mutuelle, nommé en l'honneur de l'anarchiste russe Pierre Kropotkin. Pour l'aide mutuelle, en fait, c'est un des concepts clés de la pensée de Kropotkin, et puis, bon, qui était très influent à ce moment-là dans les cercles libertaires. Et grâce au groupe Mutual Aid, va être organisée, je devrais dire, la première manifestation du 1er mai au Québec, le 1er mai 1906. Donc, le cercle Mutual Aid, dans lequel les anarchistes étaient majoritaires, eh bien, va organiser avec des socialistes canadiens français regroupés autour de la figure d'Albert Saint-Martin le premier 1er mai et qui ne passera évidemment pas inaperçu parce que pour la première fois, des centaines et des centaines de personnes vont descendre dans la rue et drapeau rouge battant, drapeau noir également, ils vont comme ça manifester et ça va susciter toute une polémique dans les journaux de l'époque. Le clergé va s'en mêler parce que des étudiants regroupés devant l'université sur la rue Saint-Denis vont invectiver les manifestants et les manifestants en retour vont vont leur crier « Abat la calotte », donc « Abat les curés », et « Vive l'anarchie ». Puis là, déjà, ça va surprendre beaucoup de monde qui est des anarchistes qui osent comme ça publiquement s'en prendre à des institutions, à des symboles religieux, au vu et au su de la police.
Tu me parlais d'Albert Saint-Martin, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Est-ce que c'est un personnage important de l'histoire, si on veut, du syndicalisme révolutionnaire?
Mais Albert Saint-Martin, c'est un personnage très important et très intéressant. D'abord, Albert Saint-Martin était, lui, sténographe à la cour municipale à Montréal. C'était pas en tant que tel un ouvrier là, manuel. Mais c'était l'un des principaux animateurs au début du 20e siècle, d'une part du mouvement espérantiste, donc le mouvement qui faisait la promotion de l'espéranto, cette langue à vocation universelle, qui cherchait à créer des ponts entre les peuples, une langue inventée de toutes pièces, là, justement, à ces fins-là. C'était aussi un animateur du Parti socialiste du Canada, mais dans sa section québécoise. Donc au départ, je dirais qu'il était plus proche d'une aile... marxiste, là, davantage qu'anarchiste. Mais lorsque le Parti socialiste, à un moment donné, va arriver comme à la croisée des chemins, tout particulièrement après la Révolution russe, et là, Albert Saint-Martin va tenter de fonder au Québec un parti communiste autonome pour le Canada français, ce qui va lui être refusé là, par Moscou. Il va donc se greffer un peu, je crois, à contre-cœur au Parti communiste du Canada, là, qui est en formation, et duquel il va se faire expulser ou duquel il va partir là, quelques années après y avoir adhéré. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la critique qui est adressée par les dirigeants du Parti communiste de l'époque, disant de lui qu'il était un anarcho-communiste, un anarcho-syndicaliste. Bref, je pense que c'était surtout quelqu'un qui avait une vision peu orthodoxe de la lutte politique et qui cherchait, je crois, à conserver sa part d'autonomie à travers tout ça, et sa part de critique libre. Et je pense que ça plaisait assez peu aux dirigeants qui étaient emprunts encore là de l'esprit du parti bolchevique, d'une ligne de parti très, très stricte, très rigide. Alors, par la suite, Albert Saint-Martin va s'impliquer dans le mouvement pour le droit des chômeurs à travers un mouvement qui s'appelle Spartacus pendant la crise économique, au sein duquel on retrouve effectivement déjà des militants anarchistes libertaires et des militants syndicalistes révolutionnaires. Donc, c'était quelqu'un qui était très sympathique à ces idées-là et qui, à travers une autre institution qui s'appelait l'Université ouvrière, va tenter de créer justement des espaces de discussion, des forums de discussion auxquels les anarchistes montréalais de l'époque vont participer avec beaucoup de vigueur.
Puis, une de mes questions, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'influence américaine pour ce qui est soit du syndicalisme ou encore de la pensée libertaire?
Oui, c'était très présent, effectivement, dans les milieux juifs en particulier. Il faut s'expliquer que un des principaux foyers d'agitation ouvrière pour la communauté juive, c'était à l'époque la ville de New York, en tout cas en Amérique du Nord. En Europe, en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest, c'était autour de Londres aussi que ça se situait, donc dans des milieux anglo-saxons. Mais dans ces milieux-là, les anarchistes avaient fondé leurs propres journaux en langue yiddish. Donc, et c'est ces journaux-là qui étaient distribués à Montréal au début du 20e siècle, essentiellement. Bien qu'il y ait eu des tentatives de fonder ici des journaux d'agitation ouvrière, là, comme le Volkszeitung, le journal du peuple, mais c'est des initiatives qui vont être très circonscrites dans le temps, alors que des journaux comme le Freie Arbeiterstimme, qui était publié à New York, eh bien, va paraître pendant plus de 60 ans et va conserver un lectorat assez important à Montréal pendant cette période-là. Donc, il y a cette influence-là qui existe, mais aussi l'influence, par exemple, au plan du syndicalisme de l'IWW, Industrial Workers of the World, qui va créer des branches à Montréal dès sa fondation et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Il y avait comme ça des militants de l'IWW, qui était un syndicat qui était basé aux États-Unis, mais qui avait des membres, justement, là, au nord de la frontière. D'ailleurs, fait intéressant, il y a quand même deux Montréalais qui ont participé à la fondation de ce syndicat-là, dont l'un, Richard Kerrigan, qui va plus tard s'impliquer dans d'autres organisations syndicalistes révolutionnaires, comme la One Big Union, par exemple.
OK. Puis, par la suite, je crois qu'il y a une époque creuse, si on veut, pour ce qui est de l'anarchisme au Québec, qui va voir plutôt, si on veut, la floraison d'un nouveau mouvement libertaire beaucoup plus tard.
Bien, il y a une période creuse, c'est sans doute, puis ça, c'est pas propre au Québec nécessairement, mais c'est vraiment toute la période qui va suivre là, la Deuxième Guerre mondiale. Là. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est une période très, très difficile. Et puis, disons que les anarchistes vont avoir beaucoup de misère à développer leurs activités dans ce milieu-là. Tous les dissidents, d'ailleurs, les contestataires, vont avoir de la misère à faire valoir leurs idées. On n'a qu'à penser ici au groupe automatiste, par exemple, autour de la figure de Paul-Émile Bordua, de Jean-Paul Riopel ou de poètes comme Claude Gauvreau. Ben, le refus global va paraître justement en 1948. Et la conséquence directe pour ces gens-là, ça va être souvent de perdre leur emploi ou d'être quasiment forcés à quitter la province pour retrouver du boulot ou pouvoir exposer librement leur peinture ou leur toile. Donc, il y a une chape de plomb vraiment dans les années, fin des années 40, début des années 50 au Québec. Et puis, c'est pas une période facile. Mais néanmoins, c'est vraiment, je pense qu'il va y avoir une renaissance du mouvement libertaire un peu plus tard, là, avec, les années 60. La révolution tranquille va vraiment libérer beaucoup d'espace et on se le cachera pas aussi. Cette génération-là qui est née après la guerre va autour de 1968 aussi prendre beaucoup de place et les idées libertaires vont s'imprégner de tout ça pour connaître un second souffle.
Puis est-ce qu'il y avait des groupes en particulier à cette époque-là qui sont constitués pour répandre la philosophie libertaire?
À quelle époque?
Dans les années après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a eu l'arrivée au Québec, entre autres, de militants et de militantes de la CNT.
Oui, en 36.
Qui est le principal syndicat anarchiste espagnol, principale organisation, disons, libertaire même à travers le monde, là, qui va compter, pendant la guerre en Espagne, tout près d'un million de membres. Donc, une organisation de masse qui va jouer un rôle clé dans la période révolutionnaire en Espagne, 1936-1937. Et suite à la défaite du camp antifasciste, républicain, révolutionnaire, ben il y a des milliers de ces anarchistes-là qui vont prendre les chemins de l'exil. Donc, dans les années 30-40, plusieurs vont passer par la France, vont connaître les camps, la misère, l'exploitation, tout ce que vous voulez. Certains vont s'engager aussi dans la lutte contre l'occupant nazi, mais dans les années 50, ils se retrouvent pour plusieurs devant un mur. Ils sont apatrides et il n'y a pas d'avenir pour eux en France où, l'emploi est difficile, la situation économique est difficile. Donc, les chemins de l'exil vont les amener jusqu'en Amérique du Nord et au Québec en particulier. Là, plusieurs dizaines d'entre eux vont aboutir au Québec. Pas tous à Montréal. Certains vont s'établir à Québec, d'autres au Lac-Saint-Jean, par exemple. D'autres vont aller plutôt vers l'Ontario ou l'Alberta, mais le noyau dur au Canada va se situer au Québec et à Montréal en particulier. Alors, dans l'exil, bien, ils vont reconstituer des branches de leur organisation. Ils vont créer aussi des réseaux de solidarité antifasciste avec des pays ou des camarades qui vivent dans des pays sous l'emprise d'une dictature comme l'Espagne. Voilà, c'est je pense autour d'eux, dans les années 50 en tout cas, qu'on voit les principaux regroupements anarchistes. Mais ces gens-là sont vraiment désabusés. Ils arrivent dans une société qui est fermée à leurs idées, dans laquelle le syndicalisme n'est pas très combatif. En tout cas, c'est souvent un syndicalisme d'accommodement avec les patrons, bien qu'il y ait une renaissance des luttes ouvrières là, vers la fin de la période, vers la fin des années 50. Mais leur position d'immigrant est très difficile. En fait, c'est difficile pour des immigrants, à cette époque-là du moins, de développer une activité autonome, en tout cas au plan syndical, c'est quasi impossible.
Oui. Puis, parlant de la guerre de 36, il y avait plusieurs Canadiens, Canadiennes, puis des Québécois aussi qui avaient été participés aux brigades internationales. Est-ce que tu connais leur nombre ou encore leur histoire?
De mémoire, là, il faudrait que je vérifie, là, mais il y a quand même quelques dizaines de Québécois qui ont participé aux brigades internationales. Pour la plupart, des gens de Montréal, mais il y avait aussi des Gaspésiens, il y a des gens d'un peu partout. Mais dans le bataillon canadien, dans les brigades internationales, le bataillon Mackenzie-Papineau, en fait, était sous un contrôle quasi exclusif du Parti communiste. Là. Okay. C'était eux qui étaient vraiment les maîtres d'œuvre de tout ça. Il y aurait eu, je dis bien, j'ai pas encore des gens qui m'ont rapporté ça, mais sans que je puisse en donner la preuve tangible, qu'il y a eu des Canadiens et des Québécois qui aient participé au... il y a eu des Canadiens, ça c'est sûr, mais des Québécois, ça c'est moins sûr, mais à des efforts menés davantage par les anarchistes en Espagne. Mais au Québec et au Canada, c'était davantage le Parti communiste qui s'occupait du recrutement et puis d'envoyer la coordination là, de ces efforts-là. Ouais. Puis dit, est-ce que tous les Québécois qui ont combattu en Espagne étaient des communistes convaincus? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. C'était, je crois, beaucoup étaient... c'était des gens qui avaient connu aussi la crise économique, qui avaient lutté dans les mouvements de chômeurs et de chômeuses, et qui, je crois, voyaient en Espagne un terrain de lutte important pour lutter contre
le fascisme. Le
fascisme qui menaçait justement la paix mondiale, puis surtout, je crois, l'humanité.
Si je me fie à ce qu'on dit, le Parti communiste canadien des années 30 était extrêmement... suivait à la lettre, si on veut, les ordres du Comintern. Donc, j'imagine que leur rôle en Espagne ont pu aussi être autant contre-productif, si on veut, contre-révolutionnaire que révolutionnaire, peut-être.
Oui, bien, effectivement. En tout cas, c'est ce qu'on rapportait. Par exemple, les anarchistes en exil, les anarchistes espagnols, on rapporte justement que jusque dans les années 50, là, il y a des règlements de compte entre communistes espagnols et anarchistes espagnols, y compris en France. Donc, ouais. Même après la défaite du camp antifasciste, il a continué à y avoir des affrontements très sérieux entre anarchistes et staliniens espagnols en exil.
Oui. Puis, durant la Révolution tranquille, si on veut, le renouvellement du syndicalisme, des mouvements sociaux, puis est-ce que les anarchistes y ont pris part?
Oui, bien, entre autres, autour de 1968, on ne peut pas passer à côté du mouvement étudiant, qui avait plutôt un rôle carrément réactionnaire, en tout cas au début du 20e siècle. Là, on ne peut pas dire que les étudiants au Québec ont joué un rôle très, très progressiste, mais les choses vont évidemment s'inverser là, à partir de la fin des années 50, mais surtout à la fin des années 60. On peut penser, par exemple, à l'occupation prolongée de l'École des beaux-arts à Montréal, dont un très beau film en a été tiré, qui s'appelle « La République des beaux-arts », que je suggérerais sans hésiter là, à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices. C'est un documentaire qui a été tourné au milieu des années 90, qui relate justement cette occupation-là, et qui était empreint justement d'un esprit libertaire très, très fort. Il y a des revues également qui existaient à cette époque-là, comme Noir et Rouge, une revue publiée en français, dont il y a eu trois numéros de 1968 à 1970. Il y a aussi et surtout, je crois, la revue anglophone Our Generation, qui était publiée à Montréal, et qui vraiment va devenir l'une des publications phares de la nouvelle gauche nord-américaine, et qui, chemin faisant, va s'imprégner d'un esprit socialiste libertaire là, dans les années 60 et 70 jusqu'aux années 80. Donc, le mouvement était assez intéressant et assez développé, mais rapidement, cet esprit-là va un peu se faire damer le pion par d'autres courants politiques qui vont émerger, là, sans compter le mouvement nationaliste, là, mais à l'extrême-gauche, pensez au groupe marxiste-léniniste qui vont prendre beaucoup plus...
Oui.
D'importance après la crise d'octobre, à partir de 1972, mais qui va aussi entraîner des critiques, et ces critiques-là vont se structurer, en tout cas les critiques anarchistes du mouvement vont se structurer, et peu à peu, autour de 1976, on va voir réapparaître de nouvelles publications, comme par exemple le journal La Nuit à Montréal, ou le Culotté à Québec, donc il y a des voix anarchistes qui s'élèvent et qui développent une activité politique non seulement à Montréal, mais ailleurs en province. Donc, l'histoire, je crois, de cette période-là reste à écrire. Et il y a beaucoup de choses à dire et là-dessus.
Oui. Je crois qu'il nous reste que 5 minutes.
Oui.
Oui. Puis pour terminer, selon toi, qu'est-ce qui se démarque un peu dans le travail que tu as fait de recherche? Quels sont les aspects que tu as trouvé le plus pertinent ou intéressant?
Bien évidemment, c'est de faire le lien entre les différentes phases. Comment ces immigrants-là sont arrivés ici? Par exemple, les immigrants français autour de la Commune de Paris ont été attirés ici par un projet du gouvernement canadien qui souhaitait justement favoriser l'occupation du territoire, mais chemin faisant, ils ont amené dans ce sillon-là des révolutionnaires. Au début du 20e siècle, quand les anarchistes juifs sont arrivés à Montréal, c'est pas par hasard, c'est parce que l'industrie manufacturière avait besoin d'ouvriers qualifiés pour opérer les nouvelles machines dans l'industrie textile. Pourquoi les anarchistes espagnols sont arrivés au Québec dans les années 50? C'est encore là pour combler des besoins en main-d'œuvre de l'entreprise capitaliste. Oui. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien vraiment de cause à effet entre les deux. Le capitalisme, des fois, court à sa propre perte. Oui. Et ça, c'est tant mieux pour nous, évidemment, parce que ces immigrants et immigrantes ont amené avec eux un bagage d'expérience très important dont ils ont pu faire bénéficier, en partie du moins, la société d'accueil. L'autre chose qui est intéressant, évidemment, de remarquer, c'est de pouvoir enfin dire que il y a une histoire anarchiste au Québec. On ne peut pas parler de tradition à proprement parler parce qu'il n'y a pas eu de transmission nécessairement de ces expériences-là d'une génération de militants et militantes à une autre. Mais néanmoins, il y a des faits, il y a des grèves, il y a des revues, il y a des journaux, il y a des mouvements qui témoignent justement d'un esprit contestataire et libertaire dans la province de Québec tout au long de cette période-là. Et ça, en soi, je crois que c'est un acquis important.
Ah, bien, je te remercie beaucoup, Mathieu Courcelle. Tu as publié un livre sur les traces de l'anarchisme au Québec qui est sorti à la collection Instinct de liberté chez Lux,
oui.
Qu'on peut trouver en général dans la part des librairies. Moi, je le croise souvent, puis c'est un très bon petit livre. Je le conseille à tout le monde.
Ben, c'est bien gentil.
Oui, ben donc nous, de notre côté, on va aller écouter une chanson, c'est Yabasta avec Barcelone, et puis on va revenir après la pause pour faire jouer un enregistrement, sans doute, de Joseph Desjacques, À bas les chefs. À tout de suite.
Barcelone, c'est ouvert ce soir. On raconte du rouge et noir. Par le biais des syndicats. pour la vie.
Orange pour la fierté.
Jaune pour le soleil.
Vert pour la sérénité.
Indigo pour l'harmonie.
Violet pour l'esprit.
Découvrez toutes les couleurs de l'homosexualité et de la diversité sexuelle à l'émission Couleurs vives, tous les mardis à 22h sur les ondes de CFDX 95,5 FM.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le Croque-Notre Show reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le Croque-Notre Show, tous les mardis soirs de 6 à 7, avec votre animateur Guillaume Genet, sur les ondes de CFNX 95,5.
Félix présente en projection le premier album d'Émile Éproux, La lenteur alentour. Révélation des francs ouverts 2007, chez Émile Éproux, chaque syllabe, chaque note et aussi chaque silence prend tout son temps pour se dévoiler. Pourtant très près du désarroi, le folk d'Émile Éproux, suspendu entre la sagesse et le doute, possède néanmoins un pouvoir de catharsis certain. On écoute un extrait.
M'étourdit à peu près. J'écoute rock, ma télé, néant. Je travaille trop fort.
Musicienne frondeuse, habitée et en parfait contrôle de son médium, marque son œuvre d'un son très personnel, moderne et jamais calqué sur la saveur du moi. La lenteur alentour d'Émile Éproux, un disque qui marquera sa génération.
Toute seule jusqu'à.
CFNX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutrent et les gens probent, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Se cache là, William. bienvenue. J'ai Raoul le parvenu. Lui a trop s'attrapé, tu n'es qu'à s'accoucher. Brouhaha.
D'écouter une chanson des Ludwig von 88, un groupe punk des années 80 qui était très populaire avec leur punk complètement éclaté. Puis j'en profite pour faire une annonce ce vendredi. Ça vaut la peine de sortir son vélo parce que c'est la Vélorussion qui va recommencer. La Vélorussion, c'est une manifestation de cyclistes dans les rues de Sherbrooke. Donc, on peut déjà se donner rendez-vous au parc Jacques-Cartier L'heure, c'est le rassemblement est à 5 heures, si je me souviens bien. Et le départ se fait par la suite pour une randonnée dans les rues de Sherbrooke en toute sécurité et avec le moins de moteurs possible. C'est un rendez-vous, tout ça au marché de la gare, comme j'ai dit un peu plus tôt. Puis on va terminer l'émission en écoutant une lecture d'un livre, qui est un discours de Joseph Desjacques, qui s'intitule « À bas les chefs » et qui est merveilleusement bien écrit. Mais juste avant, on va terminer avec une dernière chanson des Lucs Vides, « Von 88 », puis après, je fais jouer. Donc, au plaisir.
Monsieur Tchekhov, vos relevés sur votre appareil enregistreur sont erronés.
Occupez-vous de vos affaires, monsieur. Pour votre gouverne, j'ai un taux d'efficacité très élevé.
Lieutenant, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton, compris.
Comment le désirez-vous, avec des violons?
À bas les chefs, par Joseph Desjacques. Nous ne sommes plus au temps fabuleux de Saturne, où le père dévorait ses enfants, ni au temps judaïque d'Hérode, où Légion massacrait toute une génération de frêles innocents. Ce qui, après tout, n'a pas empêché Jésus d'échapper au massacre et Jupiter à la dévoration. Nous vivons une époque où l'on ne tue plus guère les enfants par le glaive ou la dent, et où il paraît assez naturel que les jeunes enterrent les vieux. Enterrons donc tout ce qui a fait son temps. Hercule est mort, pourquoi chercher à le ressusciter ? on ne pourrait tout au plus que le galvaniser. La massue est moins forte que le salpêtre est moins fort que la pile électrique, et la pile électrique est moins forte que l'idée. À toute idée présente et à venir, salut! L'autorité a régné si longtemps sur les hommes, elle a tellement pris possession de l'humanité, qu'elle a laissé partout garnison dans son esprit. Aujourd'hui encore, il est difficile, autrement qu'en idée, de la saper de fond en comble. Chacun des civilisés est pour elle une forteresse qui, sous la garde des préjugés, se dresse en ennemi sur le passage de la liberté, cette envahissante Amazone. Ainsi, tel qui se croit révolutionnaire et ne jure que par la liberté, proclame néanmoins la nécessité de la dictature, comme si la dictature n'excluait pas la liberté et la liberté la dictature. Que de grands enfants, à vrai dire, parmi les révolutionnaires, et de grands enfants qui tiennent à leur dada, à qui il faut la République démocratique et sociale sans doute, mais avec un empereur ou un dictateur, ce qui est tout un pour la gouverner. Gens montés à califourchon et la face tournée vers la croupe sur leur carcasse d'âne, et qui, les yeux fixés sur la perspective du progrès, s'en éloignent d'autant plus qu'ils font plus de chemin pour s'en rapprocher, les pieds dans cette position, galopant du côté opposé au devant de la tête. Ces révolutionnaires-là, politiqueurs au cou pelé, ont conservé avec l'empreinte du collier l'attache morale de la servitude, le torticolis du despotisme. Hélas, ils ne sont que trop nombreux parmi nous. Ils se disent républicains, démocrates et socialistes, et ils n'ont de penchant, et ils n'ont d'amour que pour l'autorité au bras de fer, plus monarchistes en réalité que les monarchiens, qui, à côté d'eux, pourraient presque passer pour des anarchistes. La dictature, qu'elle soit un hydre à 100 têtes ou à 100 queues, qu'elle soit autocratique ou démagogique, ne peut assurément rien pour la liberté. Elle ne peut que perpétuer l'esclavage, au moral comme au physique. Ce n'est pas en enrégimentant un peuple d'ilotes sous un joug de fer, puisque fer il y a, en l'emprisonnant dans un uniforme de volonté proconsulaire, qu'il peut en résulter des hommes intelligents et libres. Tout ce qui n'est pas la liberté est contre la liberté. La liberté n'est pas chose qui puisse s'octroyer. Il n'appartient pas au bon plaisir de quel personnage ou comité de salut public que ce soit de la décréter, d'en faire largesse. La dictature peut couper des têtes d'hommes, elle ne saurait les faire croître et multiplier. Elle peut transformer les intelligences en cadavres, elle ne saurait transformer les cadavres en intelligence. Elle peut faire ramper et grouiller sous sa botte de verge les esclaves, comme des vers ou des chenilles, les aplatir sous son pas pesant. Mais seule la liberté peut leur donner des ailes. Ce n'est que par le travail libre, le travail intellectuel et moral, que notre génération, civilisation ou chrysalide, se métamorphosera en vif et brillant papillon, revêtira le type humain et prendra son essor dans l'harmonie. Bien des gens, je le sais, parlent de la liberté sans la comprendre. Ils n'en ont ni la science, ni même le sentiment. Ils ne voient jamais dans la démolition de l'autorité régnante qu'une substitution de noms ou de personnes. Ils n'imaginent pas qu'une société puisse fonctionner sans maître ni valet, sans chef ni soldat. Ils sont pareils en cela à ces réacteurs qui disent « Il y a toujours eu des riches et des pauvres, il y en aura toujours. » Que deviendrait le pauvre sans le riche? Il mourrait de faim. Les démagogues ne disent pas tout à fait cela, mais ils disent « Il y a toujours eu des gouvernants et des gouvernés. Il y en aura toujours. Que deviendrait le peuple sans gouvernement? Il croupirait dans l'esclavage. » Tous ces antiquaires-là, les rouges et les blancs, sont un peu compères et compagnons. L'anarchie, le libertarisme bouleversent leur misérable entendement. Entendement encombré de préjugés ignares, de niaises vanités, de crétinisme. Plagiaires du passé, les révolutionnaires rétrospectifs et rétroactifs, les dictaturistes, les inféodés à la force brutale, tous ces autoritaires cramoisis qui réclament un pouvoir sauveur, croisseront toute leur vie sans trouver ce qu'ils désirent. Semblables aux grenouilles qui demandent un roi, on les voit et on les verra toujours changer leur soliveau pour une grue, le gouvernement de juillet pour un gouvernement de février, les massacreurs de Rouen pour les massacreurs de juin, Cavaignac pour Bonaparte, et demain, s'il se peut, Bonaparte par Blanqui. S'il crie un jour « À bas la garde municipale !» c'est pour crier l'instant après « Vive la garde mobile !» Ou bien il troque la garde mobile contre la garde impériale, comme il troquerait la garde impériale contre les bataillons révolutionnaires. Sujets ils étaient, sujets ils sont, sujets ils seront. Ils ne savent ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils font. Ils se plaignent la veille de n'avoir pas l'homme de leur choix, ils se plaignent le lendemain de l'avoir trop. Enfin, à tout moment et à tout propos, ils invoquent l'autorité, au long bec emmanché d'un long cou, et ils trouvent surprenant qu'elle les croque, qu'elle les tue. Qui se dit révolutionnaire et parle de dictature n'est qu'une dupe ou un fripon, un imbécile ou un traître. Imbécile et dupe s'il la préconise comme l'auxiliaire de la révolution sociale, comme un mode de transition du passé au futur, car c'est toujours conjuguer l'autorité à l'indicatif présent. Fripon et traître s'il ne l'envisage que comme un moyen de prendre place au budget et de jouer au mandataire sur tous les modes et dans tous les temps. Combien de nains, certes, qui ne demanderaient pas mieux que d'avoir des échasses officielles, un titre, des appointements, une représentation quelconque pour se tirer de la fondrière où patauge le commun des mortels et se donner des airs de géant. Le commun des mortels sera-t-il toujours assez sot pour fournir un piédestal à ces pygmées? Faudra-t-il toujours s'entendre dire « Mais vous parlez de supprimer les élus du suffrage universel, de jeter par les fenêtres la représentation nationale et démocratique, que mettrez-vous à sa place ?» Car enfin, il faut bien quelque chose, il faut bien que quelqu'un commande, un comité de salut public, alors... Vous ne voulez plus d'un empereur, d'un tyran, cela se comprend, mais qui le remplacera? Un dictateur? Car tout le monde ne peut pas se conduire, et il en faut bien un qui se dévoue à gouverner les autres. Eh, hey, messieurs, ou citoyens, à quoi bon le supprimer si c'est pour le remplacer? Ce qu'il faut, c'est détruire le mal et non le déplacer. Que m'importe à moi qu'il porte tel nom ou tel autre, qu'il soit ici ou là, si, sous ce masque et sous cette allure, il est encore et toujours en travers de mon chemin. On supprime un ennemi, on ne le remplace pas. La dictature, la magistrature souveraine, la monarchie, pour bien dire, car reconnaître que l'autorité qui est le mal peut faire le bien, n'est-ce pas se déclarer monarchiste, sanctionner le despotisme, apostasier la révolution? Si on leur demande, à ces partisans absolus de la force brutale, à ces prôneurs de l'autorité démagogique et obligatoire, comment ils l'exerceront, de quelle manière ils organiseront ce pouvoir fort, les uns vous répondent, comme feu Marat, qu'ils veulent un dictateur avec les boulets aux pieds et condamné par le peuple à travailler pour le peuple. D'abord, distinguons. Ou ce dictateur agira par la volonté du peuple, et alors il ne sera pas réellement dictateur, ce ne sera qu'une cinquième roue à un carrosse, ou bien il sera réellement dictateur, il aura en main guides et fouets, et il n'agira que d'après son bon plaisir, c'est-à-dire au profit exclusif de sa divine personne. Agir au nom du peuple, c'est agir au nom de tout le monde, n'est-ce pas? Et tout le monde n'est pas scientifiquement, harmoniquement, intelligemment révolutionnaire. Mais j'admets, pour me conformer à la pensée blanquiste par exemple, cette queue du carbonarisme, cette franc-maçonnerie babébibouviste, ces invisibles d'une nouvelle espèce, cette société d'intelligence secrète, qu'il y a peuple et peuple. Le peuple des frères initiés, les disciples du grand architecte populaire, et le peuple ou tourbe des profanes. Ces affiliés, ces conspirateurs émérites, s'entendront-ils toujours entre eux? Seront-ils toujours d'accord sur toutes les questions et dans toutes leurs sections? Qu'un décret soit lancé sur la propriété ou sur la famille ou sur quoi que ce soit, les uns le trouveront trop radical, les autres pas assez. 1000 poignards pour l'or se lèveront 1000 fois par jour contre le forçat dictatorial. Il n'aurait pas 2 minutes à vivre celui qui accepterait un pareil rôle. Mais il ne l'acceptera pas sérieusement, il aura sa coterie. Tous les hommes de curé qui se serreront autour de lui et lui feront un bataillon sacré de valets pour avoir les restes de son autorité, les miettes du pouvoir. Alors il pourra peut-être bien ordonner au nom du peuple, je ne dis pas le contraire, mais à coup sûr contre le peuple. Il fera fusiller ou déporter tout ce qui aura des velléités libertaires. Comme Charlemagne, ou je ne sais plus quel roi, qui mesurait les hommes à la hauteur de son épée, il fera décapiter toutes les intelligences qui dépasseront son niveau. Il proscrira tous les progrès qui tiendront plus loin que lui. Il fera comme tous les hommes de salut public, comme les politiques de 93, émules des jésuites de l'Inquisition. Il propagera l'abêtissement général, il anéantira l'initiative particulière, il fera la nuit sur le jour naissant, les ténèbres sur l'idée sociale, il nous replongera, mort ou vif, dans le charnier de la civilisation. Il fera du peuple, au lieu d'une autonomie intellectuelle et morale, une autonomie de chair et d'eau, un corps de brute. Car pour un dictateur politique, comme pour un directeur jésuite, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, ce qu'il y a de bon, c'est le cadavre. D'autres, dans leur rêve de dictature, différent quelque peu de ceux-ci, en ce sens qu'ils ne veulent pas de la dictature d'un seul, d'un Samson unitête, mais à 1000 ou à 100 mâchoires de Baudet, de la dictature des petites merveilles du prolétariat, réputées par elles intelligentes parce qu'elles ont débité un jour ou l'autre quelques banalités en prose ou en vers. Qu'elles ont...